Bon. Ah, alors, pour résumer nos affaires de la dernière fois, l'hypercalvinisme, c'est la foi petit chat, à savoir, maman chat prend petit chat entre ses dents, celui-ci se laisse porter. Attendez, ah lui est là.
Les deux
aussi. L'hypercalvinisme, c'est la foi petit chat, à savoir maman chat prend petit chat entre ses dents, celui-ci se laisse porter. L'arminianisme, c'est la foi petit singe, c'est maman qui porte, mais petit singe s'accroche à sa maman. Quant à la foi réformée, comme directeur de la licence, je charge M. Brune de la définir pour le prochain cours. Évidemment, l'image du petit chat et du petit singe, comme chacun l'aura compris, était employée en Inde, est employée d'ailleurs en Inde de tout temps, pour exprimer la relation de l'adorateur et de la divinité. Eh bien, après ce résumé, nous entrons dans la foi réformée et nous poursuivons. Nous en étions à ces deux arcs-boutants, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, tenus ensemble en une arche sainte par cette clé de voûte qui nous reste mystérieuse et incompréhensible pour notre raison. Je vais avoir, à partir de maintenant, deux parties immédiatement. La première partie, c'est évidemment sur l'insistance sur la souveraineté de Dieu, c'est le premier arc temps. Le second sera l'insistance sur la responsabilité de l'homme. Qui c'est qui est en état de manque concernant la fameuse pastorale de Dijon, qui n'a pas eu cette opuscule et le convoiterait? Dénoncez-vous, mon bouton. Vous avez eu ceci? Vous-même? Vous en voulez un autre? Vous-même? Alors c'est marqué à la dernière page, les fiancés sont admis. L'insistance sur la souveraineté de Dieu. La créature dépend entièrement de Dieu, tout puissant, créateur, continuateur et recteur souverain du monde. Nous avons vu, et la confession parle du Dieu créateur et du Dieu qui continue à porter sa création dans l'œuvre de sa providence. Le monde ne peut durer, selon l'expression de Calvin, le monde ne peut durer une minute de temps sans lui. Et l'Écriture, au fil de ses pages, martèle l'affirmation de la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut avec l'argile qu'il pétrit. Il opère tout selon le conseil de sa volonté. Ainsi, la prédestination est un acte irrésistible de la grâce. en exécution d'un décret éternel qui prédestine gratuitement à la gloire. Dieu ne s'empare pas des meilleurs, il peut s'emparer des plus mauvais, c'est-à-dire des pires. Et l'article 12, j'aurai l'occasion d'y revenir plus loin, je pense, est un article pour l'encouragement et la paix. Un article pour effrayer, mais c'est un article pour faire entrer dans la paix. Et la prédestination a pour corollaire la notion de certitudo salutis, de certitude du salut. Elle est pour encourager le croyant à se sentir solide dans sa foi. Les prédestinés sont des pécheurs. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils peuvent être même pires. Les prédestinés sont des pécheurs, mais des pécheurs vaincus par grâce. Comme il plaît à Dieu, dans sa bonté, et sans regarder au mérite. Saint Augustin parle de la prédestination ante previsa merita. Sans regarder au mérite. Hein. On est loin de cette préscience qui saurait à l'avance les mérites d'un homme. Pas du tout, c'est un acte de Dieu. Dieu n'est pas un sauveteur qui serait finalement un auxiliaire du salut, mais il est le sauveur. C'est-à-dire que s'il décide de sauver quelqu'un, ce quelqu'un sera sauvé. S'il y avait collaboration de l'homme et de Dieu à ce moment-là, serait un sauveteur qui pourrait obtenir peut-être sauver quelqu'un, pas sûrement. Deuxième point, l'insistance sur la responsabilité de l'homme. Nous l'affirmons tellement que dans notre dernier cours, nous avons commencé par ça. Dans cette espèce de sermon fictif, on a pris quelqu'un en recherche et on a insisté sur sa responsabilité d'homme, sur sa responsabilité morale, sur sa liberté formelle. Bien plus, l'affirmation sans réserve de la souveraineté de Dieu, non seulement n'exclut pas la responsabilité de l'homme, mais elle l'implique et la fonde. Jusqu'où je vais. Nous sommes libres parce que nous sommes prédestinés. Et au plus nous serons prédestinés, au plus nous serons libres. Dieu n'est pas une nécessité impersonnelle extérieur à moi-même qui me violerait. À la différence de tous les autres qui pourraient me faire violence, Dieu pas du tout. Dieu est capable d'agir avec la finesse de l'orfèvre, avec une finesse et un tact si personnel qu'il ne lèse pas ma liberté. Il agit de telle manière qu'il ne lèse pas ma liberté, mais au contraire, il met son comble. C'est la grande formule de saint Augustin, le Dieu plus intérieur que le plus intime de moi-même. Dieu n'est pas comme quelqu'un d'autre avec un petit tas qui se heurterait à moi-même parce que me prendrait de l'extérieur. Donc, Dieu agit à l'intérieur de façon à me rendre libre. La dépendance filiale me constitue libre. C'est l'amour qui provoque l'amour. Plus Dieu donne de réalité et d'énergie à la personne qu'il fait subsister, moins elle a conscience d'une contrainte qui empêcherait sa volonté de traduire et d'inscrire dans ses actes le reflet de sa personnalité. Dieu peut agir de façon tellement intime, au contraire, il fonde ma liberté. Ainsi, rien n'arrive hors la volonté de Dieu. Les choses sont inscrites dans la science de Dieu. C'est pourquoi elles arrivent, mais, et, elles arrivent en fondant ma liberté. C'est Dieu qui veut, mais il fait en sorte que je veuille. Et vous connaissez Deutéronome 29, chapitre 29, verset 29, Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous les observions. Comme homme, notre responsabilité n'est pas par rapport à la volonté décrétive de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous situer par rapport à la volonté de Dieu dans ses décrets. parce que cette volonté de Dieu, nous l'ignorons. On l'a vu comment dans le premier article, il y a un conseil, disait Calvin, abyssal de Dieu, il y a un conseil secret, caché, et l'homme serait trop curieux, et de toute façon, sa recherche n'aboutirait pas, s'il voulait entrer dans ce conseil étroit de Dieu. Comme notre responsabilité n'est pas par rapport à la volonté décrétive de Dieu que nous ignorons, mais elle est par rapport à la volonté préceptive de Dieu. C'est-à-dire à la volonté de Dieu dans ses préceptes, les choses révélées sont un coup des enfants, vous les observiez. Notre responsabilité est par rapport à sa volonté préceptive, c'est-à-dire à sa volonté révélée, c'est-à-dire à sa loi. Dieu se sert de l'obéissance et de la désobéissance des hommes. Même celui qui fanfaronnerait et qui se croirait autonome. Eh bien, il ne réalise son projet que parce qu'il est inscrit dans le dessein de Dieu. Même celui qui n'en a pas conscience, que son projet soit obéissant ou désobéissant par rapport à la volonté préceptive de Dieu, eh bien, son projet est inclus dans le plan de Dieu, est inscrit dans le dessein de Dieu. De telle sorte qu'un même acte peut être voulu par Dieu par une intention d'amour, et le même acte peut être voulu par l'homme dans une intention perverse. Le même acte peut être voulu par Dieu par une intention d'amour et par l'homme par une intention perverse. Et là, il y a de multiples exemples dans l'Écriture sainte. Je vous en donne deux que Louva va nous lire. Vous avez la Bible là? Ah! Alors c'est Notre-Dame fondamentale. Acte 2. Alors, acte 2, 23.
Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu.
Alors cet homme, c'est Jésus.
Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies.
Voilà. C'est parfait ça. Et cet homme, Jésus, arrêté selon la prescience et même le conseil, le dessein. La préscience et le dessein de Dieu, c'est le dessein de Dieu, c'est le dessein d'amour de Dieu. Eh bien, c'est vous, en même temps, vous l'avez livré dans votre responsabilité tout à fait perverse. Et dans un même acte, il peut y avoir un vouloir bon de Dieu, en fait. C'est pour accomplir le salut du monde que cet homme Jésus est livré pour souffrir sa passion et pour ressusciter, et en même temps, ce même acte est un acte mauvais qui est pervers, et les hommes qui ont arrêté Jésus sont coupables de cet arrêt, de ce procès unique qui est un des procès les plus scandaleux de l'histoire. Et vous avez un autre passage que vous voulez bien lire, en 4:28. Oui. Acte 4:28.
Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace.
Attendez, lisez alors la première partie.
28. Pour faire tout ce
27 que... alors.
27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu es à moi, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.
Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est un passage clair. Hein? C'est la faute à Hérode, c'est la faute à Ponce Pilate. Dans leur responsabilité perverse, eh bien, ils ont eu ce dessein affreux de livrer Jésus. Et en même temps, eh bien, ils font ce que ton conseil, ce que le conseil de Dieu a arrêté d'avance. Vous voyez ce que je vous dis, je veux dire, par un même acte, peut-être à la fois voulu par Dieu, par une intention d'amour, et par l'homme, dans une intention perverse. Nous voyons dans ces passages, dans ces deux passages, acte 2, 23, acte 4, 28, tout ce que l'on a fait contre Jésus, Dieu l'intègre dans son ordo salutis, dans son plan éternel de salut. Dieu intègre tout ce que l'on a fait contre Jésus pour le salut du monde. Si Dieu ne le voulait pas expressément, et que je ne joue pas comme certains jouent en disant Dieu ne veut pas, mais permet, etc. Tout ça, c'est du vocabulaire. Hein. Si Dieu ne le voulait pas expressément, même ce que nous imaginons contre Dieu ne pourrait pas se réaliser. Osons davantage et disons. Si le diable, les démons, pouvaient poser un acte en dehors du dessein de Dieu, ce serait grave pour Dieu. Ça voudrait dire qu'il y a là ce que nous avons appelé, au dernier cours, des plages où Dieu ne serait pas, des endroits que Dieu ne contrôlerait pas et qui échapperaient à Dieu. Et comment pourrions-nous dire en Dieu le Père Tout-Puissant, si sa toute-puissance était limitée, ne serait-ce par un tout petit démon. Alors, je vais plus loin, j'avance encore. C'est à propos de la prédestination et de la prédication. Je reviens à cette phrase qui a inauguré ce cours la dernière fois et qui vient de ce fameux mémoire sur les carottes sont-elles cuites, qui sous-entend que si on croit à la prédestination, à l'expression, eh bien, ce n'est pas la peine d'évangéliser. Dieu peut s'occuper de ses élus, ce n'est pas la peine de prêcher. Or, la prédication s'adresse à tous les hommes indistinctement. Les petits, les grands, et toutes les couleurs. Et quand je dis les hommes, j'embrasse aussi les femmes. Surtout depuis ce qui se passe aujourd'hui dans cette maison, qui est tout en ménage quand ils vont pas, etc. Bon, pas de
c'est les gens de la France.
Nous n'avons pas le droit de dire à quelqu'un, si tu ne crois pas, c'est que tu es réprouvé. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de considérer mon prochain comme un damné. Parce qu'on tombe dans l'évangélisation devant des têtes, j'allais dire, de mules, je le dis affectueusement, mais il y a des gens qui vraiment ont le pain et le couteau, etc., sont là pour croire et puis se butent, etc. Bon, eh bien, on pourrait dire, en fait, tout, s'ils ne veulent pas croire, c'est qu'ils sont condamnés à ne pas croire. Avec ça, ça serait alors une mauvaise application de la prédestination. Hein. Pour quand même, nous n'avons pas le droit de dire à quelqu'un, si tu ne crois pas, c'est que tu es réprouvé. Et Calvin, dont les ennemis ne manquaient pas, c'est peut-être pas si mauvais d'avoir des ennemis. Un jour j'ai reçu une lettre d'un de mes amis qui se plaignait de ne pas avoir d'ennemis et qui m'admirait d'en avoir. Il disait, je ne suscite ni passion positive, ni ennemis, et tout le monde... Et toi, tu as la chance d'avoir des ennemis. Alors, j'étais content. J'ai rendu grâce pour mes ennemis. Non, il ne faut pas être soi-même les ennemis des autres. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'être nos ennemis. Et à un moment donné, j'en allais par wagon lit. Alors, chez Calvin, les ennemis ne manquaient pas. C'est fou, les ennemis de Calvin. D'ailleurs, toujours aujourd'hui. Il y a des gens, dès qu'on dit Calvin, ils clignotent, etc. Ça s'allume de tous les côtés. Il y a de la base, des solutions. Enfin, vous savez. Et même des jeunes voix. Je suis allé à Genève, comme ça, pour traîner les gens dans les rues, etc. Dès qu'on leur dit que Calvin est des jeunes voix, etc., ils ont le hoquet, ça se passe très bien. Et alors, Calvin aurait pu utiliser. Lui qui est, on accuse, qui était si polémique et qui n'y allait pas à demi-bouche, Calvin aurait pu utiliser ce dogme de la prédestination dans la polémique. Et Calvin n'a jamais utilisé pastoralement, négativement, le dogme de la prédestination. Dans une fameuse affaire Berthelier, lorsque Calvin est là en polémique avec le fameux Berthelier, je vous renvoie pour des détails à la biographie de Calvin, c'est pas ça qui me tourne en ce moment, Calvin, dans cette corps à corps avec Berthelier, aurait pu dire, Berthelier, si tu ne crois pas, et si tu ne tombes pas d'accord avec la vérité que je vous raconte, c'est que tu es damné. Mais il ne l'a pas fait. Manqué le traite de chien. C'est un chien. Ce n'est pas affectueux non plus. Mais il ne dit pas quand même qu'il vaut mieux encore être chien que damné. Pas alors, au fond, nous n'avons pas à faire un triage, un tri entre les élus et les réprouvés. C'est ça de Deutéronome 29-29. Les choses cachées sont à l'intérieur même notre Dieu. Nous n'avons que des choses révélées qui nous disent qu'il faut que tu prêches l'évangile à tout homme. Qui est élu, qui est damné, ça c'est l'affaire ultime du Dieu. Nous n'avons pas à faire un tri nous-mêmes entre les élus et les réprouvés. C'est ce que Calvin appelle le jugement de charité. Lorsque je m'adresse à un interlocuteur, je pousse peut-être un peu là, hein, mais lorsque je... C'est ça le jugement de ça. Lorsque je m'adresse à un interlocuteur, je dois le considérer comme une sorte d'élu en puissance. C'est-à-dire que je ne dois pas le considérer à aucun moment comme un damné, ou comme quelqu'un qui porterait les marques d'une réprobation. Non, je dois croire, même quand bien même cet homme en face de moi serait le plus bas tombé, eh bien je dois toujours le considérer comme un élu en puissance, c'est-à-dire comme capable de répondre à la prédication et dire oui à Dieu.
Oui. Que ce que je sache, il n'y a pas eu d'inquisition réformée. Il n'y a pas d'excommunication.
Non.
Ça existe. Beaucoup d'autres qui ont parlé là.
Oui. Il y a quand même une excommunication dans la pensée de Calvin. Nous le verrons peut-être. Mais c'est toujours une excommunication de l'Église. C'est-à-dire que l'Église peut faire sortir quelqu'un de son sein, mais c'est toujours elle qui le fait. Et l'Église peut se tromper. D'après ses critères d'Église, elle ne peut dire à quelqu'un, voilà, vous ne communierez pas, vous ne participerez pas à la Sainte Cène, parce que vous êtes dans un état de péché grave, de révolte explicite contre Dieu, etc. Mais on dira toujours c'est l'Église en foi réformée qui le fait. On dira qu'elle a raison de le faire, l'Église. Mais on ne dira pas un tel qui est exclu par l'Église, il est exclu par la même, par Dieu. Vous voyez ? Comment ?
Le pouvoir des clés.
Oui, c'est le pouvoir des clés.
Mais
on ne dit pas. Si un tel est exclu, ça veut dire qu'il sera damné. Non, il est exclu de la communauté de la Sainte Cène, très précisément, mais il doit venir au culte. Il est exclu de la Cène, mais il doit quand même venir au culte. Et son exclusion ne signifie pas qu'il est damné. Parce que l'Église peut se tromper.
D'accord, donc au niveau de l'Église, ce n'est pas, si on reprend un des points du canon d'Ordrecht, c'est de dire que Christ est mort que pour son Église, ce n'est pas le sortir de ce champ.
Non, voilà. Mais nous ne savons pas. Nous ne pouvons compter et essayer de comprendre ce qui se passe dans l'Église visible. Mais l'Église qui importe, c'est l'Église invisible. Et nous ne savons pas qui et du nombre de ses élus. Qui fait partie de cette Église de la vie ? Qui est ajouté, qui en est retranché, ça va pas. Nous ne... Oui ?
Il semble être enfin condamné, je ne sais plus qui,
oui.
À Genève, je crois que ça a été, ça n'a pas été une démission du
Dieu. Non, du tout. Quoique, il n'est pas condamné au bûcher. Non, oui. Et c'est la ville de Genève qui l'a condamné au bûcher, et Calvin était contre cela, le brûlement. Donc quand on dit que Calvin l'a condamné au bûcher, c'est un raccourci, ça. C'est disons que la ville de Genève l'a fait condamner au bûcher contre la volonté de Calvin. Et Calvin était pour qu'il soit quand même arrêté et jugé. Donc, nous ne prêchons pas à des élus ni à des réprouvés, en tant qu'élus ou que réprouvés, mais nous prêchons à des pécheurs qui ont besoin de salut. Toi, tu es un pécheur et tu as besoin d'être sauvé. Et ce n'est pas à nous de décider si cet homme est un réprouvé, pas plus ailleurs, si cet homme est un élu. On s'adresse à un homme pécheur qui a besoin de salut. La question n'est pas de savoir si les hommes à qui je prêche sont prédestinés ou pas, ça ce n'est pas mon problème. pas le conseil de Dieu dans les préceptes. Nous ne savons pas, Dieu ne nous donne pas les indications pour savoir si les gens sont unis ou sont unis. La question n'est pas de savoir si les gens à qui je prêche sont prédestinés ou non, mais s'ils veulent croire au message de l'Évangile. Et si par conséquent, ils veulent être élus, et s'ils le veulent, ils le peuvent. Mais s'ils le veulent et le peuvent, c'est évidemment que Dieu a mis en eux sa volonté. Si les pécheurs voulaient se repentir et croire, il serait sauvé. Et à celui qui se croirait damné, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé dans les évangélisations, des gens qui me disent, écoutez, moi je ne crois pas, c'est parce que je suis damné. Il y a quelques malins comme ça. Sérieux, ils me l'ont dit, rare. Alors ils m'ont dit, vous ne pouvez m'apporter qu'un message de désespoir, etc. Alors je lui dis, et maintenant, en ce moment, au nom de Dieu, je t'ordonne de te repentir, de te convertir et de croire. C'est ça la prédication. Celui qui vient à moi, dit Jésus, n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc Jésus te demande de venir. Avec cette assurance, il ne te mettra pas dehors. Et d'ailleurs, tout Jean 6, vous avez les deux choses dans la bouche même de Jésus. Jésus qui dit d'un côté que nul ne vient à moi que si le Père l'attire, prédestination, et en même temps il dit que l'homme doit librement venir à lui. Hein, quelquefois, jusque dans le même verset, vous avez ça dans Jean 6. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà la responsabilité de l'homme. Et Jésus poursuit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Voilà la souveraineté de Dieu. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Voilà la souveraineté de Dieu. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. C'est décrété. Et dans le même verset, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Voilà la responsabilité de l'homme. Et etc. Vous avez ça juste toute la fin de. Vous avez ceci jusqu'à la fin du chapitre 6, et même après, et vous avez affirmé, soit l'un verset puis l'autre, soit même dans le même verset, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Donc cette construction en forme de voûte s'appuie elle-même sur le texte de la bouche même. Tout ça, il faudrait évidemment avoir le temps de le démontrer jusque dans les textes. La réprobation. N'est pas une prédestination au mal. Et chez Calvin, il y a une disproportion dans l'institution de la religion chrétienne, c'est frappant, il y a une asymétrie entre l'exposé de l'élection à salut, qui fait 10 paragraphes, et l'unique paragraphe consacré à la réprobation. Vous avez 10 paragraphes pour la prédestination à salut, 1 à la réprobation. C'est-à-dire qu'une espèce de d'élaboration d'une doctrine trop symétrique de la double prédestination n'est pas là. Dieu apparaît la cause efficiente du salut, efficiente parce qu'il donne l'efficace, et il est la cause déficiente du mal. Il s'abstient de donner l'énergie du bien. Il laisse les non-élus à la condamnation issue de la chute. Oui, Dieu apparaît la cause efficiente du salut, E2FEICUNTE, la cause efficiente du salut, et il est la cause déficiente, DFUICIUNTE, déficiente, la cause déficiente du mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas parallélisme. Est-ce qu'il y a élection pour la foi, mais si l'élection est à l'origine de la foi, elle n'est pas cause de l'incrédulité. Autrement dit, la prédestination est toujours ad vitam pour la vie, mais elle n'est pas ad mortem pour la mort. Elle n'est pas ad malum pour le mal, encore moins ad peccatum pour le péché, comme si Dieu pouvait être l'auteur finalement du péché. Si Dieu prédestinait quelqu'un au péché, c'est que Dieu serait l'auteur du péché, donc de multiples voies. Autrement dit, la réprobation n'a pas sa source en Dieu, mais la réprobation a sa source dans le péché de l'homme. Ce qui me permet d'affirmer que, ultimement, nul ne sera damné s'il ne l'a voulu. Voilà. Il est dans le péché et il veut y rester la tête dedans. Et la réprobation est la ratification par Dieu. La réprobation est la ratification par Dieu de notre acte de volonté humaine. Autrement dit, pour ceux qui refusent la grâce, Dieu décide d'être, j'allais dire, synergiste, j'allais dire arminien. Dieu décide d'être arminien à leur égard. C'est-à-dire de ne rien faire d'autre que de solliciter. Il laisse ceux qui sont des pécheurs, et il les sollicite et il les laisse dans leur péché. Il ne donne sa grâce efficace qu'aux élus. Si la prédestination n'était pas venue au secours de quelques-uns, en leur donnant de persister dans la grâce, il n'y en aurait pas un seul jour. C'est cela qui est important. C'est-à-dire que, depuis, comme le dit la confession hérétique postérieure, depuis la chute, nous sommes tous emportés dans un océan de condamnation et de mort. C'est normal, nous n'avons pas même à respecter, c'est normal. Et ça serait normal d'être entraîné à jamais dans cette perdition. Or, Dieu retire ses élus de cet océan de perdition. Ça se présente comme cela, les choses. Et si Dieu ne prédestinait pas, eh bien, il n'y aurait pas un seul de Dieu. Il y a pas de juste, pas d'un seul, etc. Tous sont séparés, tous sont... Et pour la Bible, qui pense différemment que nous, pour la Bible, l'étonnant, ce n'est pas qu'il y ait des perdus, mais l'étonnant, c'est qu'il y ait des sauvés. C'est ça qui étonne. Nous ne devons pas, en cette matière, donner de leçons de miséricorde à Dieu. La justice justice ne se laisse pas d'être juste, bien qu'elle nous soit mystérieuse, c'est pas parce que nous ne comprenons pas et que nous sommes dépassés que la chose est mauvaise. Au contraire, nous devons nous humilier dans le sentiment de la profondeur des voies divines. Et dans la Bible, toute parole directe sur Dieu, articulée en langage humain, pose devant la raison une réalité qui l'humilie et l'écrase, parce que la raison de l'homme est dépassée. Et un grand axiome de la foi réformée, c'est « finitum non est capax infiniti ». Le fini n'est pas capable de l'infini. C'est-à-dire, si nous sommes dépassés par le dessein de Dieu, c'est normal. Et comme je le disais autrefois, tout dogme, pour être vrai, doit être antithétique. Parce que précisément, il pose une relation entre le fini et l'infini. Et c'est pourquoi vous avez Jésus-Christ qui est tout à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et c'est cela, évidemment, qui est la difficulté. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et pourtant, est à même vrai homme. L'Écriture est parole de Dieu et elle est parole d'homme. La scène, c'est du pain et c'est le corps du Christ. Tout dogme, pour être vrai, doit être antithétique, puisqu'il pose une relation entre le fini et l'infini. C'est sûr qu'il y a là un mystère inscrutable qui déborde la raison. Pascal disait, la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent, qui la surpassent. Il faut s'incliner loyalement devant le sacré qui est tout à la fois tremendum et fascinans, terrible et adorable. Et surtout dans l'Église, il faut ranger notre pensée à la parole de Dieu. Et il faut célébrer la miséricorde dont on est l'objet de la part de Dieu. Et c'est le cas de Éphésiens, etc. Et de tant de passages dans le Nouveau Testament, il y a un aspect doxologique. Même dans les fameux passages, dans le fameux passage de Romains 9 à 13, 9 à 11, le passage de Romains 9 à 11, et à la fin de cette grande démonstration sur la prédestination de Paul, il y a une louange absolument éclatante, vous la verrez, à Dieu. L'aspect doxologique de plusieurs textes, justement prédestinatiens du Nouveau Testament, nous empêche de recevoir l'élection comme un arrière-fond redoutable, menaçant. La réflexion sur l'élection, conformément à l'Écriture, n'est pas soumission à un inconnu obscur, mais elle est reconnaissance, adoration, louange, doxologie. Et l'application de tout ce que j'indique, pour les pères du 16e et du 17e siècle, pour les réformés, qui ont péri à cause de leur fidélité et à leur foi, l'élection était une source positive de paix, justement parce qu'ils savaient par cœur l'article 12 de la Convention. Et c'est cet article, et le contenu de sens de cet article, qui les faisait monter sur les bûchers, ramer sur les galères, etc. C'est ça qui a permis à Blanche Gamon monter sur l'échafaud, en passant même la première avant les autres, et à se faire même couper la langue, etc., etc. Parce qu'elle savait qu'elle ne renierait pas le Christ. Elle savait que tout ne reposait pas en elle-même, ou en eux-mêmes seulement, mais ils savaient qu'ils étaient tenus par cette volonté de Dieu. Et que Dieu n'était pas à leur égard. Alors, je vous fais encore un cadeau.